Je me mets cette pression. Je pense que c'est plus une pression pour moi d'être grande sœur que d'être compétitrice.
Championne du monde
40-0.
Salut, c'est Cléo et bienvenue sur Championne du Monde, le podcast des femmes qui construisent le sport de demain. Alors, pas besoin d'être championne du monde pour passer ici. Toutes les deux semaines, on vous fait découvrir la voix de femmes qui incarnent le sport et font bouger les lignes. Athlète, journaliste, médecin ou même ta mère, fan de Kevin Mayer, on part à la rencontre de nanas qui déchirent et surtout toujours plus badass que la plus badass de tes copines. Bonne écoute! À quelques mois des Jeux Olympiques, le surf, l'un des sports porte-étendard des Jeux de Paris et qui était annoncé comme l'un des moments forts de la quinzaine, subit son nombre de polémiques. La tour des juges, prévue pour l'épreuve, cristallise toutes les tensions. Le comité organisateur prévoit d'installer une tour en aluminium de 14 mètres de haut en plein lagon, risquant ainsi de détériorer une partie du récif corallien, alors qu'une tour, non homologuée, existe déjà. La compétition pourrait donc avoir lieu sur un autre site si les autorités ne se mettent pas d'accord. Une décision devrait être prise rapidement. Il y a une athlète pour qui ce verdict pourrait avoir un très gros impact. En marge des débats, j'ai rencontré la surfeuse de 23 ans, Vainé Fierro. Originaire de Polynésie. Résidente tahitienne depuis de nombreuses années, elle connaît sur le bout des pieds la vague de Teahupo'o. Sur la dernière Olympiade, elle avait raté sa qualification d'une toute petite place, un échec qui lui reste encore en travers de la gorge. Autant dire qu'en juin dernier, lors des mondiaux au Salvador, Vainé a tout donné pour obtenir sa qualification. Et elle l'a eue, en terminant meilleure européenne de la compétition. Dans notre échange, pas de place à la polémique, mais place à la quête de soi. S'il semble évident que la Polynésienne souhaite plus que tout faire une médaille chez elle dans quelques mois, elle n'en met pas pour autant de côté des éléments essentiels comme son entourage et plus particulièrement sa famille, son immense pilier. Vainé aime se dépasser, sortir de sa zone de confort et en apprendre toujours plus sur elle-même pour devenir une meilleure personne et donc une meilleure athlète. Dans cet épisode, on parle de spiritualité et d'amour de l'océan, mais également de transmission pour celle qui rêve d'être un modèle dans le monde du surf, mais surtout un modèle pour ses deux petites sœurs. Et rappelons-nous que le surf, c'est avant tout une philosophie de vie, et s'il y a bien une chose que l'océan nous a appris, c'est qu'il est imprévisible et que les situations houleuses, il les connaît bien. Salut Vainé.
Bonjour.
Comment vas-tu?
Je vais très bien, merci.
Très contente d'être avec toi aujourd'hui et de pouvoir enregistrer cet épisode ensemble.
Oui, je suis très ravie que Championne du Monde s'intéresse au surf.
Ah bah bien sûr, bah justement, bah pour ceux qui connaissent un petit peu Championne du Monde, on avait déjà enregistré un épisode avec Joanne Defay, oui. Ta compatriote, qui est également qualifiée d'ailleurs pour les Jeux Olympiques.
Oui, c'est vrai.
Donc n'hésitez pas à aller l'écouter, vous voyez, on s'intéresse vraiment au surf pour le coup. Bah Iné, est-ce que, première question, un peu simple, mais qui est nécessaire, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît?
Oui, donc je m'appelle Vainé Fierro, j'ai 23 ans. Je suis de Tahiti et je suis surfeuse professionnelle. Voilà, et je suis actuellement sur Paris pour un séminaire à la police nationale. Mais bientôt, je vais retourner à l'océan chez moi.
Ça va, ça te déplaît pas trop d'être en métropole à Paris?
Ça change, c'est différent, mais nécessaire, on va dire, pour pouvoir mieux apprécier la maison.
Le retour est d'autant plus doux.
Oui, c'est ça.
Vainé, du coup, donc on l'a compris, tu es surfeuse professionnelle. Je crois que c'est une histoire de famille. C'est vraiment quelque chose que tu pratiques depuis que tu es toute petite petite.
Oui, en fait, au départ, c'était plutôt une passion loisir. Et donc, en fait, j'ai commencé le surf grâce à mes parents. Ils m'ont appris à surfer dès le plus jeune âge. Je vis sur une île, donc on est entouré de l'océan. Donc, c'est dur de ne pas aller jouer dans l'eau. Et donc, après, c'est devenu une routine avec mes sœurs d'aller surfer tous les jours après l'école avec mes parents pour pouvoir s'amuser, se détendre. Se défouler et en fait ça a créé une cohésion en fait entre ma famille, le surf, tous les liens sont beaucoup plus forts et faciles et on partage ce qu'on aime faire donc et ensuite c'est seulement un peu plus tard vers l'âge de 12 ans que mon papa m'a m'a demandé si je voulais participer à une première compétition locale et j'étais pas trop intéressée. Pour moi, c'était vraiment juste pour un loisir. Et donc, j'ai essayé, j'ai perdu et je me suis dit, OK, en fait, j'aime bien ce challenge et j'ai envie de progresser. Et en fait, ça m'a fait un déclic et c'est à partir de l'âge de 14 ans, 15 ans où je me suis mise un peu plus sérieusement. Ce qui est un peu tard dans le milieu du surf de commencer à cet âge-là, mais j'ai adoré en fait ce côté challenge où ça me demandait de progresser, de donner le meilleur de moi-même. Et donc voilà, maintenant c'est une passion métier.
Mais j'allais dire justement, c'est pas compliqué des fois. C'est pas un peu schizophrène de dire c'est ma passion, mais c'est aussi mon métier, de faire la part des choses entre les deux.
Oui, surtout dans le surf, en fait, c'est une façon de vivre. On vit dans l'océan. Donc, c'est souvent, des fois, c'est des entraînements. Et des fois, on veut aller surfer juste sans entraînement et juste parce qu'on adore ça. Donc, voilà, des fois, ça se croise. Mais bon, c'est comme... Enfin, je pense que c'est pour... Tous les surfeurs compétiteurs, c'est un peu la même chose. On adore le surf et ça mixe un peu avec les entraînements et la passion en même temps.
Ça n'a jamais un peu éteint la passion que tu avais pour ce sport?
Pour être honnête, en toute honnêteté, là, ce mois-ci, j'ai terminé ma saison avec des résultats qui ne m'ont pas trop plu. Et en fait, je me suis posé la question, mais j'ai commencé le surf parce que j'adore ça et là, je suis frustrée à cause du surf aussi. Donc, des fois, je me pose la question, est-ce que c'est... Ben, j'ai commencé le surf parce que je l'adore et que là, des fois, ça me frustre. Mais après, je pense que c'est comme dans la vie de tous les jours. Il y a des choses qu'on aime, mais qui, des fois, nous sortent de notre zone de confort ou qui nous challenge. Et en fait, c'est juste une façon de voir les choses. Et voilà, le surf, ça m'apprend à grandir aussi. C'est plus qu'une passion. Maintenant, c'est une façon de vivre, une façon de m'épanouir et... Voilà.
Et tu le dis, c'est une façon de vivre. Toi, tu es née en Polynésie. Je crois que tu as déménagé à Tahiti, où tu vis toujours aujourd'hui. Ça ressemble à quoi, justement, cette vie-là que tu as?
Ben là, les dernières années, c'est plutôt 9 mois sur les voyages et 3 mois à la maison. Donc, 3 mois entrecoupés, je passe une semaine par-ci. Ensuite, je fais 2 mois de voyage, je reviens une semaine. Donc, je passe un peu moins de temps à la maison, mais c'est ce qui me ressource, c'est ce qui m'inspire. À chaque fois que je rentre, c'est pour voilà, repartir, apprendre de ce que j'ai pu faire pendant mes compétitions et mes voyages. Et puis, arrivé à la maison, ben je reprends l'énergie, je reprends l'amour de mes proches, de l'endroit où j'ai vécu, où je vis encore. Et pour repartir, en fait, c'est en vrai, c'est un peu le noyau de ce que je fais. C'est une façon pour moi de pouvoir être bien en compétition quand je pars à l'étranger.
Les compétitions en surf, c'est un peu particulier. Il me semble que sur 2021 et 2022, tu étais à presque rien de te qualifier sur la ligue professionnelle.
Oui.
Comment est-ce que tu peux nous expliquer un tout petit peu plus, parce que c'est vrai que c'est assez spécifique au surf, qu'on comprenne un tout petit peu mieux comment c'est construit.
En fait, je suis aussi sur la World Surf League, mais c'est comme un peu dans le football. Il y a la Ligue 1, la Ligue 2, la Ligue 3. Et moi, je suis sur la Ligue 2. Je suis dans le top. Là, j'ai fini 10e dans la Ligue 2. Donc, je fais partie du top 30 mondial, on va dire comme ça. Et mon objectif, c'est d'intégrer le top 17 mondial, donc la Ligue 1. Et ça fait 3 ans que j'essaye, que je suis à quelques places près, même une ou deux places près, mais c'est pas passé, c'est pas mon temps. Et l'année prochaine, j'ai une nouvelle chance de pouvoir continuer le circuit. C'est 6 compétitions dans l'année. Et à la fin, ils prennent le top 5 de tous tes résultats cumulés. Et après, tu peux intégrer le top 17. Donc ça, c'est un de mes plus gros objectifs. Et voilà.
Ce serait un accomplissement de rentrer dans le top 17?
Oui, en fait, ça va être pour moi aussi un objectif de petite fille où je vais être la première Tahitienne à me qualifier dans le top 17 mondial. Je vais être la... enfin voilà, c'est vraiment un rêve de petite fille d'y être. J'ai eu des exemples côté masculin, ouais, comme Michel Bourez, et donc c'est voilà, c'est une façon pour moi de créer un peu l'histoire dans le surf féminin à Tahiti.
Ouais, t'as vraiment envie d'être une sorte de modèle, de référence.
En fait, voilà, si on peut dire ça comme ça, mais c'est plutôt ben, montrer que c'est possible, en fait. Même si on vient d'un pays assez isolé, on est un peu loin de tout. Les partenaires, les sponsors sont un peu moins accessibles quand on vit aussi loin. Mais c'est tout aussi possible. J'ai des partenaires géniaux aujourd'hui, des sponsors qui me soutiennent pour qui je suis, d'où je viens. Et donc, c'est juste montrer que c'est possible.
Tu te sens un peu à part, déconnectée des fois des autres sportifs qui s'entraînent en France ou
C'est sûr qu'on a vraiment une façon de vivre différente. À Tahiti, c'est juste différent. On est sur une île, tout est beaucoup plus proche, connecté, lié. Et j'ai l'impression, enfin, quand je voyage, que tout est un peu plus grand et c'est juste des relations différentes. Ouais.
Après, tu voyages beaucoup aussi, donc j'imagine que finalement, cet aspect grand, tu l'as quand même au quotidien toute l'année.
Oui, et ben, en fait, pour être honnête, de voyager autant, ça me sort beaucoup de ma zone de confort parce que j'adore la maison, j'adore être à la maison, être avec ma famille. Mais je sais aussi que c'est important de voir ailleurs. Ça fait grandir, en fait, de partir de chez soi, de voyager, de se découvrir à travers d'autres cultures, à travers les compétitions. On cesse d'apprendre, en fait. C'est tous les jours, on apprend des choses nouvelles. Donc, c'est aussi important de partir. Et parce qu'après, quand on revient, tout est meilleur. Donc, c'est la série sur le gâteau.
On le disait, toi, le surf, ça a été naturel au final, parce que tu habites sur une île. Beaucoup de gens surfent là-bas. Qu'est-ce qui t'a plu quand tu étais petite et quand tu as commencé le surf et qui te plaît toujours autant aujourd'hui?
Je pense vraiment le côté où je suis avec mes amis et ma famille. Ça me permet de partager quelque chose, des sensations fortes avec les gens que j'aime. Et c'est ça. Il y a comme une adrénaline et je pense que je suis addict à ça. Et aussi, ben, l'océan, il n'y a pas une seule fois où c'est rare. Je pense que les gens vont aller à la mer, ils vont sortir et ils vont dire que c'était pas top ou que c'était affreux. Enfin, c'est souvent quand tu sors de la mer, t'es ressourcé, tu te sens bien, tu as faim, tu as envie, tu t'es dépensé. Enfin, c'est aussi une façon de me ressourcer quotidiennement.
Le lien avec du coup ton environnement, l'océan, c'est quelque chose qui est hyper important pour toi?
Oui, je pense que dans la culture tahitienne, on est très spirituel, donc tous les éléments on vit en fait dans un écosystème vivant. Constamment et on vit grâce aux éléments qui sont autour de nous, comme la mer, la pêche, que ça soit la montagne, donc le jardin, les fruits, les légumes, enfin tout est assez sain, je dirais, en Polynésie, tout est assez, enfin tout est connecté. Ouais.
Et ça c'est un des éléments clés pour toi de te sentir proche de ton environnement. Est-ce que par exemple quand tu arrives en compétition, le fait de te sentir bien sur la plage, dans ton environnement global, c'est quelque chose aussi qui va impacter ta performance?
Oui, toujours. Bien sûr que c'est important d'être bien entouré, que ça soit l'entourage, mais aussi ben, de se sentir bien et de se sentir à la maison, même quand on est très loin de la maison. Et ça se retrouve dans des petits détails, des petits trucs qu'on fait attention, comme juste apprécier qu'il fait beau ou apprécier le vent qu'il y a, les grosses vagues. Enfin, je pense que ça vient aussi de beaucoup d'appréciation de où on est, d'où on vient et aussi les... Ouais, voilà.
Tu parlais de la maison, donc la maison de Tahiti qui va être le spot de surf pour les Jeux. Quand tu as appris que pour les Jeux de Paris 2024, ça allait être à Tahiti, ça a été tout de suite un objectif pour toi de te qualifier et d'en faire partie?
J'étais pas surprise qu'ils choisissent Tahiti comme spot de surf parce qu'on était en France, c'est pas la saison des vagues. Donc c'est bien qu'ils aient choisi Te Ahupo'o parce qu'on va pouvoir montrer un spectacle dans des belles conditions et en plus un peu revenir à la source de l'histoire du surf. C'est là où l'histoire du surf est née, en Polynésie, entre Hawaï et Tahiti. Donc, c'est aussi une histoire culturelle que les gens vont découvrir. Et pour moi, j'avais raté ma qualification pour Tokyo 2020 d'une place. Ça m'avait vraiment affecté. J'étais là, ça faisait mal en fait, en vrai. Et quand j'ai appris que c'était à la maison, j'étais là, OK, ça va être de un, une revanche de pouvoir me qualifier au JO. Mais en plus, si je me qualifie, c'est à la maison. Donc, je ne peux pas ne pas y être. Ça va me faire tellement mal de juste être à la maison et de regarder les JO du bord. Ouais. Donc, j'ai visualisé ça et c'était vraiment affreux. Donc,
ça t'a donné la motivation.
Je me suis dit, c'est pas possible que je puisse pas y être, mais je savais qu'il y avait beaucoup de choses à apprendre, en fait, de cette défaite de ne pas être qualifiée à Tokyo. Et j'ai pris les leçons, les petites leçons que j'ai pu, qui étaient flagrantes quand j'ai perdu. Et j'ai travaillé sur ça. Et quand je suis arrivée pour la qualification en juin 2023 à El Salvador, j'avais l'impression d'être une personne complètement différente, exactement dans la même situation qu'il y a 2 ans, mais d'être une personne qui avait grandi, qui avait changé sa façon de voir les choses, qui savait, qui avait des outils pour pouvoir gérer le stress et la pression, et j'ai réussi à la fin. Donc c'était vraiment c'était un soulagement de pouvoir se qualifier, surtout parce que c'était à la maison.
Donc effectivement, tu t'es qualifiée parce que tu as accédé aux phases finales des mondiaux, tu as été donc première européenne, ce qui t'a donné ton billet pour les Jeux.
C'est ça.
Tu dis que tu es arrivée sur cette compétition avec un état d'esprit différent. Qu'est-ce qui a changé par rapport à 2 ans avant, 3 ans avant?
Je pense que j'avais pas forcément les outils de comment gérer le stress de devoir atteindre son objectif sur une compétition. Parce que généralement, dans le circuit, on a plusieurs étapes pour arriver à un résultat final. Bien sûr, il faut gagner ou il faut être constant dans ses résultats, mais ce n'est pas seulement sur une compétition. Et donc, c'était vraiment... c'était flagrant que j'avais ces outils-là pour gérer le stress, c'est-à-dire des mantras, de la respiration, de la visualisation. Je pense que tous les athlètes font ça, mais... Moi, j'ai appris un peu ça un peu plus tard et ça m'a, jusqu'à aujourd'hui, ça m'aide beaucoup. Et aussi, le côté femme, chez les femmes, on a nos cycles tous les mois. Et il y a 2 ans, j'étais très, très affectée par mes règles. J'étais pliée en 4 à chaque fois pendant mes règles, après mes règles. Je prenais beaucoup de poids, j'étais un peu plus sensible, plus émotionnelle pendant mes règles. Et en fait, ça m'affectait énormément. Et pendant ces mondiaux que j'ai pas réussi, j'ai perdu le jour où j'ai eu mes règles.
D'accord.
J'ai pas blâmé ça sur ça, mais je savais que c'est un sujet qu'il faut que je traite immédiatement. Et qui va beaucoup jouer dans ma carrière parce que tous les mois je vais avoir mes règles et tous les mois avoir des douleurs comme ça, je vois pas ma vie avancer avec ça tous les mois. Et donc j'ai décidé de contacter une médecin qui travaille avec la médecine chinoise, donc un remède naturel. Je voulais aucune pilule, aucun médicament parce que c'est seulement un pansement de prendre des médicaments. Donc, je voulais quelque chose vraiment qui vienne de l'intérieur et qui fasse ressortir, en fait, ces douleurs-là. Et donc, j'ai suivi un cursus de 3 mois avec elle, avec la médecine chinoise, de comment manger pendant toutes les phases du cycle, quel exercice faire à travers le cycle. Enfin, ça m'a changé. Mon corps, il s'est adapté, il a changé et maintenant, j'ai plus de douleur, je prends pas de poids, je suis presque normal pendant mes règles. Je suis toujours sensible, mais ça, c'est normal. Mais j'ai plus les douleurs et je vis mes règles comme un jour normal. Et ça, c'était vraiment un grand accomplissement pour moi.
Tu as vraiment appris à te connaître, que ce soit psychologiquement ou même physiologiquement, du coup, pour vivre le plus en paix possible avec tout ce qui se passe, finalement.
Oui, en gros, ça venait beaucoup de l'intérieur, de l'émotionnel, des choses qu'on garde en nous, des douleurs. Et donc, du coup, j'ai réussi à faire ressortir ça et à apprendre à me connaître, à apprendre mes faiblesses, à apprendre dont j'ai besoin. Enfin, juste à me connaître mieux et à être plus consciente, en fait, de mon corps, de la façon.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
De m'aimer, de plein de choses. Ça m'a ouverte dans plein de portes différentes dont je savais pas qu'elles existaient.
Tu sens que ça, cette compréhension de toi, te permet aussi d'être une meilleure athlète?
Ah oui, c'est lié, les deux. C'est l'athlète, on est humain tout d'abord et ensuite on est l'athlète. Donc si l'humain il va pas bien, l'athlète il va pas forcément performer aussi. Donc c'est relié et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai fait cet effort. Parce que je me dis peut-être que si j'étais pas dans la compétition, j'aurais jamais été consciente de à quel point j'étais affectée en fait. J'aurais peut-être juste accepté que les douleurs sont normales et que j'ai pas besoin de performer, mais donc du coup voilà, grâce à cet athlète aussi, j'ai pu me forcer un peu à me connaître plus et à m'épanouir et à me pousser. Et ça sort beaucoup de sa zone de confort, mais à la fin, c'est ce qui nous rend vivants. Donc voilà.
C'est hyper important, c'est vrai qu'on en parle assez peu et le sujet des règles pour le coup est un sujet qu'on traite de plus en plus dans le cadre de la pratique sportive. Oui. Et c'est vrai que c'est un sujet qui est primordial et qui malheureusement n'est souvent pas pris en compte dans l'entraînement, on va dire, d'une athlète, alors que ça fait partie intégrante d'elle.
Oui, c'est vrai, parce que même, par exemple, mon entraîneur physique, lui, il m'entraînait comme si j'étais un homme. Enfin,
De la même façon.
En fait, il n'y avait pas de conscience que ça nous affecte, enfin, que ça peut nous affecter si on s'entraîne à fond le jour de nos règles, alors que c'est un moment un peu plus de repos. Mais tout autour du cycle, il y a une façon de s'entraîner. Et donc, même par rapport à mes proches, ça nous a tous appris, en fait, même à mon père, à mon entraîneur, enfin même côté homme, qui est mon entourage, j'ai beaucoup d'hommes autour de moi, mes coachs, mon entraîneur physique, mon père. Donc même eux, ça leur a appris un peu plus sur la femme. Et donc ça a ouvert un peu les esprits et c'est un sujet dont il faut parler facilement. Et aujourd'hui, c'est pas forcément le plus facile à aborder avec tout le monde, mais je pense que si on en parle de plus en plus, ça peut ouvrir les esprits.
T'as le sentiment d'éveiller les consciences. T'as aussi deux petites sœurs, que c'est important en tant que la grande de la famille, d'être aussi un modèle pour tes petites sœurs.
Oui, pour moi, je me mets cette pression. Je pense que c'est plus une pression pour moi d'être grande sœur que d'être compétitrice où j'ai envie d'être un exemple, qu'elle puisse se relayer sur moi, qu'elle puisse avoir bénéficié de ce que moi j'ai pu apprendre plus douloureusement, ou pour elle, c'est un peu un raccourci. Donc, j'essaie toujours de pouvoir progresser pour pouvoir être un exemple pour elles, si elles ont besoin de moi. Et pareil au sujet des règles, elles sont deux filles, deux femmes qui deviennent des femmes et elles savent comment gérer ça. Et donc, elles ont eu un petit raccourci, elles savent déjà comment le faire. Donc,
tu as fait profiter de ton expérience.
Voilà, j'ai fait profiter mon entourage de ça. Et dès que je peux en parler, je le fais aussi.
Toi, en tant qu'athlète aussi, est-ce que tu as des objectifs particuliers? Est-ce qu'il y a des choses que tu veux accomplir en tant que surfeuse ou finalement tu te laisses porter un peu par la vie et par les événements?
Je pense qu'il y a un peu des deux. Bien sûr que j'ai des grands objectifs et je pense que c'est ce qui fait que, en fait, on a un chemin qui se trace et donc on vit un peu jour le jour les événements pour arriver à la fin, on va dire, à notre objectif final. Et donc, on va dire que mes plus grands objectifs sont de me qualifier. Je suis qualifiée au JO. Pardon, c'est de gagner des médailles d'or aux Jeux Olympiques et de gagner des trophées de championne du monde. Donc ça, c'est mes plus grands objectifs. Et ensuite, ça vient par des plus petits objectifs qui viennent dans la vie de tous les jours, de pouvoir s'améliorer tous les jours, de pouvoir progresser dans mon surf, de pouvoir progresser au niveau mental, au niveau physique. Enfin, c'est en fait, ça te pousse à constamment progresser pour pouvoir y arriver. Et après, tu rencontres de nouvelles personnes, tu rencontres de nouveaux sponsors. En fait, tu attires, en fait, je trouve qu'on attire beaucoup. Le plus on s'engage dans quelque chose et le plus les gens autour, ils ressentent cette même énergie et tu arrives à prendre certaines personnes avec toi pour t'accompagner. Donc, c'est aussi jour le jour où tu ne t'attends pas forcément à avoir... Par exemple, mon sponsor Oxy, je les ai attirés, ils ont été intéressés par moi et c'est parce que je me suis engagée dans quelque chose, ils ont aimé mon histoire. Enfin, c'est aussi jour le jour et c'est ça qui est magnifique, c'est toute la route qu'on fait pour y arriver. Donc voilà, c'est un tout.
Le fait que les Jeux soient à Tahiti l'année prochaine, est-ce que aussi ça te rajoute une pression supplémentaire parce que on va dire que tu es peut-être plus attendu étant donné que c'est une vague que tu connais plutôt bien et de l'autre côté aussi chez Kaoli il y a un peu vous êtes un peu les deux pendant féminin masculin où vous êtes les locaux de l'étape on va dire est-ce que ça c'est quelque chose qui est difficile à gérer
je pense que la pression chacun la gère différemment. Mais pour moi, j'ai besoin d'un peu de pression parce que sinon, c'est pas important. Ou sinon, je suis pas motivée. En fait, la pression, c'est de l'adrénaline pour moi. Et évidemment que les Jeux Olympiques sont à la maison. Donc, il y a cette pression de vouloir bien faire. C'est notre vague. C'est nous qui la connaissons la mieux, qui avons passé le plus de temps à l'eau. C'est ce que les gens pensent aussi. Et donc, nous, on va penser ça aussi de nous. Mais au fond, on sait que notre entourage, que notre pays nous aime pour qui on est et que le résultat, bien sûr que quand on va gagner, tout le monde va être heureux et que quand on va perdre, tout le monde va être déçu. Mais au fond, tout le monde nous aime pour qui on est. Et ça, il ne faut pas oublier. Pour pouvoir utiliser cette pression de la maison comme une motivation au lieu d'un fardeau.
Tu trouves justement des fois que le milieu de la compétition met trop de côté ses valeurs humaines
en fait, en étant athlète, tu sais ce que les athlètes vivent quand ils vivent une victoire, tu sais ce qu'ils ont enduré pour l'avoir, la victoire. Ils ne sont pas arrivés à la victoire sans avoir perdu ou eu des moments de doute ou de peur ou de frustration. Il y a tout ça, mais vu de l'extérieur, quand on n'y est pas, on voit seulement une personne qui gagne. Waouh, c'est un champion. Et on pense seulement ça. Et puis le côté où c'est une défaite, il ne s'est pas entraîné, c'est pas ci, c'est pas ça. Mais tout le monde s'entraîne. En tant qu'athlète, on sait qu'on s'entraîne tous dur, qu'on perd plus que l'on gagne. Dans le monde du surf, en tout cas, c'est comme ça. Mais après, voilà, c'est juste que y a des gens qui sont plus épanouis ou qui en connaissent plus, donc ils savent ce que les athlètes endurent ou vivent. Et il y en a qui savent un peu moins. Donc, y a des mentalités différentes et il faut juste savoir accepter ça aussi.
On a la sensation des fois aussi que le public manque un peu d'empathie des fois.
Oui, c'est sûr que y a des personnalités différentes. Et souvent, quand je croise des gens qui manquent d'empathie envers un athlète ou qui sont un peu assez froids, c'est souvent parce qu'eux-mêmes, ils sont comme ça envers eux. Donc, il faut comprendre que même eux, ils sont comme ça envers eux. Donc, c'est comme ça, c'est leur mentalité, il faut accepter. Mais tu as les gens qui te tirent vers le haut et il faut juste se souvenir de ces personnes-là et le reste, on fait avec.
Ouais, c'est ça, exactement. Restez pas trop près de moi.
Mais en même temps, c'est une motivation aussi. Des fois, on se dit, cette personne, elle a dit ça, je vais lui prouver le contraire. Enfin, tu vois, c'est aussi des façons de voir les choses. Il y en a, ils vont être démotivés par le fait que ça n'a pas plu à cette personne. Il y en a, ça, c'est leur plus grande motivation d'aller à l'encontre de tout ce que les gens disent. Donc, c'est aussi chez l'athlète, le monde autour, c'est ce qui nous crée, nous aussi. Donc, ouais.
Tu te sens, toi, à l'heure actuelle, en harmonie avec toi-même?
Je me sens en harmonie avec moi-même le plus que j'ai jamais été. Peut-être parce que je suis plus mature ou je sais pas, j'ai pris un peu plus d'expérience et surtout, j'essaie d'écouter un peu plus. Je suis assez têtue. Du coup, des fois, c'est dur de communiquer avec moi. Je parle de mes gens proches comme mon papa, mon coach, mon préparateur physique. C'est des gens où, voilà, je prends sur moi pour les écouter alors qu'ils sont là pour moi, ils sont là pour m'aider, mais j'écoute beaucoup plus et ça m'aide beaucoup et j'écoute les gens plus, je suis plus ouverte d'esprit. Donc, je suis un peu plus calme, je grandis en fait, j'apprends, je grandis, j'ai des frustrations, j'apprends encore. Donc, on apprend constamment, sans arrêt, jusqu'à notre mort. Donc, je me dis ça en fait, tous les jours.
Moi aussi, je me dis que finalement, en vieillissant, en grandissant finalement, comme on apprend sur soi-même, on est de plus en plus en harmonie avec soi-même. C'est ce que j'aimerais croire, en tout cas.
Mais après t'es en harmonie, mais t'es aussi... Enfin, pour moi, c'est en harmonie, c'est aussi être hors de ma zone de confort. C'est une façon d'être en harmonie avec moi-même. Je suis plus à l'aise d'être dans cet état que d'être... dans ma zone de confort où là j'ai l'impression d'être plus aplatie ou j'avance pas ou donc j'ai des motivations aussi qui me permettent d'être en harmonie avec moi-même,
savoir se dépasser,
voilà. Pour certains c'est ça, pour par exemple j'aime bien aussi m'entourer de personnes qui aiment être dans leur zone de confort parce que ça me permet d'avoir de la stabilité à travers eux et eux ils sont en harmonie avec eux-mêmes, dans ce qu'ils font. Et moi, je suis complètement l'inverse, où c'est un peu plus instable, on va dire, mais chacun est différent, chacun a sa manière d'être en harmonie, et pour moi, c'est d'être constamment challengé.
C'est bien. À partir du moment où tu sais comment tu fonctionnes, oui. C'est le principal. Pour revenir un petit peu plus particulièrement au surf, c'est une discipline que les gens malheureusement aussi comprennent peu. Ça a été un peu critiqué au début à Tokyo parce que les gens disaient mais on comprend pas. Pendant les Jeux, ça a aussi été critiqué justement. Alors malheureusement, il y a eu assez peu de vagues, ça a été assez compliqué les conditions. Et il y a eu beaucoup de critiques de la part du public qui a voulu s'y intéresser mais qui n'a pas compris grand-chose. Qu'est-ce que tu dirais, toi, justement? Pourquoi c'est légitime aux Jeux Olympiques? Pourquoi il faut regarder? Et comment essayer de comprendre? Ça fait beaucoup de questions, mais...
Oui. Non, mais c'est vrai que le monde du surf, c'est difficile à suivre. Déjà, moi, en tant que surfeuse professionnelle, des fois, je me dis, ouais, pourquoi ils font autant de tours? Pourquoi c'est compliqué? Enfin, c'est compliqué. Et parce qu'en fait, déjà, je pense, on est sur un terrain de jeu qui est constamment... constamment en adaptation. L'océan est jamais pareil, donc on sait jamais si le jour de la compétition on va surfer, à quelle heure on va surfer, la marée elle est trop haute, et non, il faut attendre encore 2 heures pour qu'elle baisse. Enfin, on est en constante adaptation. Et comparé à du football où à telle heure on s'assoit et à telle heure à peu près on va savoir que ça finit, on sait que ils vont tirer, ça marque un point, alors que nous on est plutôt, je pense, dans l'art, dans le côté artistique, où on crée une danse sur la vague. Et il faut comprendre que dans le surf, chaque manœuvre, ça score un certain point, mais c'est aussi des juges qui, eux, ont leur avis différent. Donc, c'est pas on a marqué un point parce qu'on a tapé comme ça. En fait, il y a aussi Donc, dans le surf, le côté, ce qui va beaucoup marquer les points, la puissance, la taille, le choix de vague, donc la taille de vague, la rapidité d'exécution de manœuvre sur la vague. Donc, il y a plein de détails qui entrent en compte dans le score, mais ce n'est pas un score, tu as marqué un point. Donc, c'est les juges qui donnent un avis différent. Le public peut avoir un avis différent. Enfin, je pense que c'est pour ça que c'est dur à suivre et à être hypnotisé, parce que tu sais pas trop en fait à quoi t'attendre et comment la série va se dérouler. Mais après, c'est ça en fait le ce qui est beau dans le surf, c'est que c'est l'inconnu. Tu sais pas qui va gagner dans la série, si la vague elle vient à toi, si tu es hors rythme avec l'océan. Et pour le public, faut s'intéresser en fait à ce côté un peu instable de l'océan et des surfeurs.
Tu parlais du côté artistique qui est hyper intéressant aussi, parce que c'est vrai qu'à l'origine, quand on sort de la compétition vis-à-vis du surf, c'est vrai que c'est aussi une discipline qui est très artistique, visuelle. Est-ce que tu trouves que c'est dommage que du coup en compétition tu vas peut-être plus te focaliser sur des choses qui vont te rapporter des points, des choses techniques, plutôt que sur des choses qui vont te faire plaisir et des choses qui seront belles et artistiques à voir?
Mais voilà, en fait c'est chez les compétiteurs, en tout cas c'est vraiment quand on se lève de notre vague, on doit terminer la vague pour pouvoir gagner le plus de points possible. Et si on tombe sur la vague en essayant quelque chose de créatif, et si on tombe, on peut passer à côté de notre série. Donc on va dire qu'on peut moins prendre de risques, on peut moins se laisser immerser par ce qu'on veut vraiment faire, parce qu'il faut au bout d'un moment scorer des points, terminer la vague et prendre, parce que deux vagues comptent dans la série pour pouvoir passer tes deux meilleures vagues. Donc, il faut au moins avoir deux bonnes vagues pour pouvoir passer la série. Et donc, c'est sûr qu'on se retient un peu de
vous exprimer,
de s'exprimer à fond les ballons, parce qu'on a un peu cette restriction de devoir scorer. Mais après, on fait ça à l'entraînement, où on pratique et on peut tomber, on peut essayer. Donc, voilà, il y a les deux côtés. Et moi, j'aime bien ce côté-là où il faut être un peu plus strict. Et après, je peux me lâcher en hors compétition. Mais après, je peux aussi mettre ça dans la compétition et essayer de me lâcher au plus possible. Et donc, tu prends plus de risques et donc plus de points. Donc, on peut aussi se lâcher. Mais ça vient avec le temps. J'essaie de faire ça un peu plus souvent.
Il faut dire aux gens d'aller sur une plage, du coup, et d'aller regarder les surfeurs plutôt que de regarder à la télévision.
Oui, c'est différent. C'est juste... ouais, c'est...
Justement, si tu devais donner des arguments aux personnes qui ne s'intéressent pas ou qui ne comprennent pas forcément le surf, d'aller regarder, tu leur dirais quoi?
Juste d'apprécier en fait le fait qu'on est dans on a un temps limité, les vagues vont venir, et d'apprécier le spectacle qu'on va donner. Enfin, c'est être en connexion avec la nature, être présent aussi. C'est quand on est présent, on se laisse immerger, on se laisse aller, et c'est un peu une détente aussi d'avoir, parce que l'océan, ça détend beaucoup de gens. Il y a peu de gens qui sortent de la plage et qui disent que c'était affreux d'être à la plage. Donc, c'est aussi une façon de se détendre et d'apprécier un joli spectacle.
Tout à fait. Une des dernières questions. Donc, le podcast s'appelle Championne du monde. On n'est pas obligé d'être championne du monde pour passer dans championne du monde. Je le précise.
Ça va, j'ai fait championne du monde junior.
C'est vrai. Ça va. Mais t'étais pas obligée.
Oui.
Si tu devais, toi, donner ta définition de ce qu'est une championne, qu'est-ce que tu dirais?
C'est... je pense que chacun a sa définition. Hein, mais pour moi, c'est une personne qui adore ce qu'elle fait, qui est passionnée, qui adore les personnes qui sont autour d'elle, qui est inspirée en fait par tout ce qui l'entoure. Enfin, en fait, en gros, c'est pour moi, c'est à mes yeux, c'est ce que je vois dans une championne du monde, c'est la façon dont elle s'engage dans ce qu'elle fait, les choix qu'elle mène. C'est enfin, une championne du monde, c'est quelqu'un qui se pousse constamment, qui essaie du mieux. Et voilà.
Très bien. Et c'est vrai que l'aspect environnement aussi est très important, enfin, environnement global, personnel, est très important et souvent on l'oublie un petit peu parce qu'on pense à la performance et pas forcément à l'entourage qui est aussi primordial. Et je crois que chez toi, ça ressort beaucoup, ça.
Ah oui, mon entourage, je sais pas ce que je ferais sans eux, je serais pas ici. Mais ouais, l'entourage, enfin, c'est important, surtout dans les moments de victoire, ils sont là pour te célébrer, mais surtout dans les moments de défaite où tu as toujours l'amour de tes gens proches, même quand c'est un peu difficile. Donc, pour moi, c'est important.
Et qu'est-ce que tu te souhaites pour la suite?
Je me souhaite de marcher sur la plus haute marche du podium aux Jeux Olympiques 2024 et me qualifier au top 17 mondial et d'apprécier mes compétitions et de beaucoup de joie, d'amour, de bons moments et de croire en soi aussi.
Très bien, et je te le souhaite aussi.
Voilà. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Vainé. Et puis écoute, à bientôt. Et puis bonne chance pour les JO parce que, let's go.
Oui, merci.
Salut, Vainé. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à Championne du Monde sur les plateformes d'écoute et à nous laisser commentaires et étoiles sur Apple Podcasts. Et rejoignez-nous sur Instagram pour plus de news et infos sur le sport au féminin. À bientôt!
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.